messieurs. Nous reprenons la lecture là où nous l'avions laissée dans l'épître de Paul aux Galates. Et nous approchons maintenant le chapitre 2e de cet épître aux Galates. Donc, pour la lecture de la parole de Dieu, nous restons debout. Galates chapitre 2, versets 1 à 10. Ensuite, 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. J'y montais par suite d'une révélation. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Quant à ceux qui paraissent les plus considérés, ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui agissant en Pierre en a fait l'apôtre de circoncis a également agi en moi en vue des païens, et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi nous irions, nous, vers les païens, et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous de comprendre ta parole, de comprendre les propos de l'apôtre Paul ici, donne-nous de les comprendre dans leur contexte, donne-nous aussi et surtout de voir en quoi cette parole nous parle. Seigneur, que ton Esprit Saint, ce matin, présent au milieu de nous, soit présent en chacun de nous. Que ton Esprit Saint, qui a donné cette parole, travaille en nous pour que nous la recevions, que nous la fassions nôtre. Que, Seigneur, ta parole nous parle, car ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité de ta parole. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane. Mais ta parole, elle, demeure éternellement. Alors parle, Seigneur. Tes serviteurs écoutent. Amen. Je vous invite à reprendre place. Nous poursuivons donc dans cette lettre de l'apôtre Paul aux chrétiennes et aux chrétiens de la Galatie, dont certains, peut-être, sont descendants de Gaules. Mais ce n'est pas là la question. La principale raison de cette lettre est que Paul, l'apôtre, s'alarme de constater que les chrétiens des églises de la Galatie se soient, je cite, « détournés si vite de Jésus-Christ pour passer à un autre évangile ». Et il y a de quoi s'alarmer. Si Paul a raison dans ce propos, il y a véritablement de quoi s'alarmer que dans cette jeune église naissante, il y a en si peu de temps un détournement de l'Évangile qui mène les personnes, en se détournant de l'Évangile, de se détourner de Jésus-Christ lui-même. Le propos est grave. La parole de Paul est parle et il précise bien et clairement que lorsqu'il est question d'un autre Évangile, il n'y a pas d'autre Évangile. Il y en a un seul et unique. Mais cet autre message de l'Évangile, il dit que c'est une falsification et il dit même, je cite, une perversion de l'Évangile de Jésus-Christ. On est dans le contexte ici, et l'enjeu donc est extrêmement sérieux, car en réalité, le mouvement religieux en cause, on pourrait l'appeler ainsi, ce mouvement de cette soi-disant autre Évangile, eh bien si je peux citer Sinclair Ferguson, c'est la page de publicité dans le livre qui vient de sortir, dont d'ailleurs Gaëtan a fait une partie, c'est pas une préface, c'est un commentaire au début ici. Le Christ et ses bienfaits, vous le recommande grandement. Je sens qu'on va bientôt l'étudier avec fraternel. Hein. Mais en tout cas, je cite juste un petit extrait lorsqu'il parle de ces choses-là. Eh bien, l'enjeu, enfin, il ne dit pas ceci, je cite bientôt, mais l'enjeu donc, est extrêmement sérieux parce qu'en réalité, le mouvement religieux qui est en cause, là, cette fois-ci, je le cite, reconstruit ce que Christ a détruit. Christ est venu à détruire quelque chose et ce mouvement le reconstruit. On pourrait même le dire dans l'autre sens également. Eh bien, ce mouvement détruit ce que l'Évangile a construit. Il y a là vraiment une dynamique grave et sérieuse au point que l'apôtre Paul va écrire toute une lettre aux églises de la Galatie à ce sujet. Dieu répond à une problématique, certes locale, les églises de la Galatie, mais en réalité répond à une problématique universelle. Un peu comme le livre que je viens de citer part d'une problématique qui était localisée, mais qui en réalité touche tous dans le fond. Parce qu'en effet, l'Évangile est une véritable alternative, heureuse alternative, bonne alternative, à toute vision du monde que nous pourrions avoir. Sachant que toute vision du monde penche toujours vers deux extrêmes. Celle de la religion, qui est une fin en soi, ou celle de l'irreligion, où on refuse toute religion. Celle du légalisme, où on met un accent sur la loi, c'est par la loi qu'on obtient les choses, ou celle de l'antinomisme, où on refuse tout esprit de loi. Celle du moralisme, ou celle du relativisme. Donc Paul adresse cette question, et donc avance dans son argumentation, on l'a vu déjà dans une partie du premier chapitre, il poursuit dans ce deuxième chapitre, Paul avance dans son argumentation et l'étape dans laquelle nous nous trouvons ce matin, dans laquelle Paul poursuit, cette étape-là va mettre l'accent sur l'importance des sources. Finalement, sur quoi est-ce qu'on se repose pour savoir si ce que nous disons est vrai ? Paul affirme et témoigne de ce que sont ses sources. Et c'est une façon de dire, c'est pas dit dans le texte, mais on pourrait tout à fait le lire ainsi, en insistant, en disant, ben voici, en exposant, en disant, ça ce sont mes sources, c'est une façon de dire à ses adversaires, et vous, quelles sont les vôtres? Sur quoi appuyez-vous vos propos? Sur quoi fondez-vous cet autre évangile? Et de quel droit y mettez-vous autant d'importance ici? Et c'est là une très bonne approche des choses. Parce que finalement, et on pourrait avoir pas trop de mal à voir ceci autour de nous, si les sources sont faussées, si les sources reposent sur une tradition, ou sur les sources reposent sur un raisonnement humain, eh bien, il ne faut pas s'étonner que le message qui en sorte soit faussé. Si ces sources sont faussées, c'est-à-dire si les textes fondateurs sont falsifiés, si ce qui est donné au départ n'est pas correct, si, au contraire, les textes fondateurs sont mis à côté, voire mis sous une tradition ou une vision des choses ou un système qui s'est mis en place au cours des années et des siècles, ou si tout simplement ces sources sont mises en dessous de notre capacité humaine et philosophique de raisonner, et si nous sommes là en train de dire « oui, les sources sont là, mais nous savons mieux aujourd'hui parce que nous avons compris que le monde doit être compris ainsi », eh bien, ne nous étonnons pas que cela mène à un autre évangile. Or, Paul s'est éloigné des mensonges, s'est éloigné des traditions, s'est éloigné de son propre raisonnement. Ces sources sont des sources qui vont directement à la source qui s'appelle Jésus-Christ. C'est le message que donne l'apôtre Paul ici. Au chapitre 1er, il l'a déjà évoqué, je cite verset 11 du chapitre 1er, Paul dit « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Et nous avions vu, évoqué précédemment, que c'est la marque même qui scelle l'authenticité apostolique. Paul ici fait référence à ce qui s'est passé sur le chemin de Damas et sur le fait que ce n'est pas qu'il a entendu quelque chose ici et là, mais il est en train de dire la marque des apôtres, c'est d'avoir vu Christ ressuscité et d'avoir été envoyé par Christ ressuscité. Et Paul ici peut dire avec force de dire Christ m'a rencontré sur mon chemin. Christ ressuscité m'a interpellé, m'a appelé et il m'a appelé à le servir en tant qu'apôtre. Et donc ça, c'était dans la première partie. On voit que Paul y fait référence. Et pendant 3 ans, évidemment dans la première partie, Paul va cheminer seul, on se comprend, mais il n'est pas toujours tout seul. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'il est seul avec le Seigneur. Et c'est mon interprétation. Il y a peut-être des discussions là-dessus, mais je crois vraiment que pendant ces 3 années, Paul a pris le temps de tout reconstruire en lui. Rappelons-nous, il était un des plus grands spécialistes de l'Ancien Testament. Il connaissait l'Ancien Testament sur le bout des doigts. Il en avait une parfaite connaissance, mais cette connaissance était utilisée à un mauvais usage, puisqu'il persécutait l'Église de Jésus-Christ. Ayant rencontré Jésus-Christ, je peux imaginer Paul reprendre toute sa Bible, l'Ancien Testament, reprendre verset après verset et de voir Christ au centre. Et de refaire ainsi toute sa théologie. Et il a bien dû lui falloir 3 années. D'ailleurs, 3 années, c'est le temps minimum pour se former, pour être pasteur. Donc pour Paul, je pense qu'il a pris ces 3 années à complètement tout revoir et tout réviser. Mais non seulement il a passé ces 3 années, mais après ces 3 ans, et il en fait un point de marque pour dire, ce n'est pas dès l'instant où il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas qu'il est tout de suite allé voir les apôtres pour dire, dites-moi ce que je dois croire. Il s'est laissé façonner, former. Il a pu revoir, il a suffisamment compris qui était Christ pour pouvoir maintenant l'appliquer à toutes les Écritures. Mais là, 3 ans plus tard, il vient voir Pierre, Jacques et Jean. Le test. Est-ce qu'après 3 années, on dit la même chose? Est-ce qu'après 3 années, vous qui avez passé 3 ans avec Jésus, vous qui l'avez vu ressusciter, vous qui êtes rempli de l'Esprit Saint, eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Et Paul met en avant que Pierre, Jacques et Jean soutiennent, en tout cas ne s'opposent pas et sont en faveur avec ce que Paul est en train de faire. Et il terminait aussi dans ce chapitre premier pour dire que même les églises qu'il a pu rencontrer, qui avaient entendu parler de ce Paul, qui savaient que lorsque Paul arrivait dans les églises, c'était pour les arrêter, pour les mettre en prison, pour les tuer, ils découvrent l'œuvre de l'Évangile dans cet homme et ils glorifient Dieu, nous dit le texte. Ça, c'était donc au chapitre premier, mais dans ce second chapitre, eh bien, Paul va un cran plus loin. Nous sommes la 14e année. Alors, il y a des discussions sur ces 14 ans, parce que c'était dès le début, dès la fin. La probabilité, c'est qu'on compte les 3 années déjà passées et qu'il y aurait eu 11 années entre les 2 visites à Jérusalem. Mais là n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est de savoir que 14 ans plus tard, Paul rencontre de nouveau ceux qui ont attesté qu'il était sur la bonne voie. Et il est intéressant de voir qu'il les rencontre, le texte nous dit, en privé et dans un premier temps. Et il dit qu'il rencontre les plus considérés. Qui sont ces plus considérés? Ça, c'est intéressant. Merci de m'avoir posé la question. Je vais essayer d'y répondre. Mais qui sont donc ici les plus considérés? Le terme évoque ce que l'on pourrait traduire autrement par des notables, c'est-à-dire des personnes respectables, des personnes qui ont été évaluées et qui disent de bonnes choses, dont l'opinion est valable, pour la validité de leur dire, qui ont une bonne réputation. Donc des personnes qui, dans l'entourage qui est le leur, sont reconnues comme étant des personnes consultables, des personnes sages, des personnes au message de valeur, des sages. Aujourd'hui, on dirait des mentors, des personnes qui sont aptes à écouter, qui donnent l'aptitude à écouter et à suivre et à prêter attention ici. Paul, accompagné de Barnabas et de Tite, « va les voir, dit-il, pour s'assurer que tout ce qui s'est fait jusque-là soit bon. » Il sait ce qu'il croit, il sait ce qu'il fait, mais avant d'aller plus loin, il veut s'assurer auprès de sources fiables, de sources sages, de sources expérimentées, de sources reconnues. Je cite, « Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. » Plus tard, elle dit, « Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ils, les plus considérés, ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, ils nous donnèrent la main droite de Barnabas et à moi, en signe de communion. Ainsi nous irions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. » Et ça me mène à dire, et il n'y a pas que moi, que la probabilité que ces plus considérés soient en réalité le cercle des apôtres qui est à prendre donc en forte considération, même si l'expression est quelque peu inhabituelle. C'est en tout cas l'avis de Jean Calvin, c'est l'avis, sauf erreur, de John Piper, d'un certain nombre de commentateurs. Et donc, on peut le voir parce que, par exemple, le mot qui est repris, quand il parle clairement des apôtres cette fois, en citant trois en particulier comme des colonnes, j'ai envie de dire comme les colonnes apostoliques, je cite, donc verset 9, « Lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, Pierre et Jean, considérés comme des colonnes. » C'est intéressant de voir qu'ici, ça pourrait passer, parce que dans notre langage courant, on dit « on considère ceci », mais en réalité, c'est la même racine verbale que « les plus considérés » dont il parle ici. Et il serait en train de dire que ceux parmi les considérés, qui sont des colonnes, Pierre, Jacques et Jean, font partie de ce groupe ici. Et donc, nous voyons là que Paul, dans son argument, se réfère dans l'ordre à la source qu'est Jésus-Christ, qu'il a rencontré sur le chemin de Damas, se réfère ensuite à ceux à qui Jésus-Christ lui-même a confié les fondations de l'Église, les apôtres, et ceux encore plus précisément qui sont les colonnes, à savoir Pierre, Jacques et Jean. Ceux-là même qui, à la troisième année, avaient déjà reconnu le ministère de Paul, ceux-là même qui, maintenant, 14 ans plus tard, approuvent et certifient. J'aurais presque envie de dire, et ça parlera à l'un d'entre nous ici, c'est comme l'évaluation après une sorte de temps, de stage, de ministère. Et bien là, ils continuent de dire, tampon apostolique, nous approuvons, nous portons, nous soutenons, nous apôtres de Jésus-Christ, nous Pierre, Jacques et Jean, nous certifions, nous assurons que l'apôtre Paul est bel et bien un apôtre de Jésus-Christ. Et Paul met ceci en avant et il dit ceci, « Voilà mes sources, dit Paul. » Intéressant, parce qu'on pourrait entendre encore une fois, ce n'est pas dans le texte, mais on pourrait entendre ceci, « Voilà mes sources. Jésus-Christ ressuscité en personne. Le cercle des apôtres, eux-mêmes certifiés par Jésus-Christ. Les trois qui ont un rôle encore plus fondateur, Pierre, Jacques et Jean. Voilà mes sources. Et vous, quelles sont les vôtres? Qu'avez-vous à offrir pour faire contrepoids? Vous qui proclamez un autre évangile que le mien, vous qui en proclamant un autre évangile au passage, voulez m'évincer pour que je n'ai plus droit à la parole, pour que je n'ai plus vraiment un mot à dire ici, qu'avez-vous à dire concernant vos propres sources? Il semble que vos seules ressources, excusez-moi pour le jeu de mots, mais vos seules sources ici ne soient que la tradition et la forme religieuse qui va avec. L'exemple qui est donné, et qui est fort intéressant, l'exemple qui est donné, c'est qu'ils mettent en avant le besoin pour des chrétiens d'origine non-juive de se faire circoncire. Alors arrêtons-nous un instant sur les enjeux ici. Que veut dire cette pratique? Pourquoi demander à des nouveaux chrétiens venant du monde païen de se faire circoncire? Quel serait le problème de ne pas le faire? Finalement, pourquoi pas? Ou tout simplement, pourquoi? Ben, rentrons un peu dans l'argumentation possible ici. Qu'est-ce qui se passe? Dieu n'a-t-il pas demandé de le faire? Rappelons-nous que jusque-là, les textes bibliques sont essentiellement l'Ancien Testament. Et Dieu ne demande-t-il pas dans l'Ancien Testament que la circoncision soit appliquée sur son peuple? Par exemple, ce fut ordonné à Abraham comme signe de l'alliance. C'est fort. Et pour nous qui revendiquons appartenir à la théologie de l'alliance, ça pourrait nous parler une chose pareille. Et quand on voit les termes, Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toute leur génération. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. » Plus tard, il dira que ne pas circoncire revient à rejeter l'alliance. C'est grave. C'est extrêmement sérieux. Un mâle circoncis qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple. Il aura rompu l'alliance. L'Éternel va même plus loin. Non seulement il y a l'alliance, le signe de l'alliance dans la chair, mais il y a le signe de l'alliance dans les cœurs. Dans Deutéronome, Il dit ceci: « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici qu'à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. » Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur descendance. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque. On voit l'importance de ce mot, l'importance de ce concept. Et quand il est question de circoncire les cœurs, il est clairement question de dire, vous avez déjà été circoncis dans votre chair. Rappelez-vous ce que ce signe évoque et amenez vos cœurs à cela. C'est également, dans les exemples de l'importance des choses, la première chose qui va être faite lorsque le peuple va sortir du désert pour rentrer dans la terre promise. Et il y a deux choses qui cadrent cela. Ils viennent juste de traverser les eaux du Jourdain et ils viennent juste de poser les 12 pierres du mémorial de Gilgal. Vous vous souvenez ? Arrive la célébration de la Pâque, grand moment. Et avant la célébration de la Pâque, eh bien, il va y avoir une séance de rattrapage. Une séance de rattrapage de la circoncision. Je cite dans Josué, « En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, et pour la seconde fois, circoncis de nouveau les Israélites. » Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie des airs. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte avait été circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, on n'avait circoncis personne. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la disparition du contingent des hommes de guerre sortis d'Égypte qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays que l'Éternel avait juré à leur père de nous donner, pays découlant de lait et de miel. Ce sont leurs fils qui l'établissent à leur place. Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis du fait qu'on ne les avait pas circoncis en route. Lorsqu'il eut achevé de les circoncire, de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison en vue de la célébration de la Pâque. C'est une affaire sérieuse. Le raisonnement ici, c'est de dire, comment pouvons-nous avoir une quelconque bénédiction de Dieu si nous rompons son alliance? C'est un message fort, un message clair. Et pour ces responsables religieux dans l'Église primitive ici, c'est de dire, on ne peut pas rompre avec ça, on prendrait un risque énorme. Et d'ailleurs, ils font aussi référence à l'appel des prophètes, donc beaucoup moins vieux dans l'histoire, quand il dit, soyez circoncis pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda, habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Même d'ailleurs des textes intertestamentaires, vous trouvez un, ainsi le livre des Jubilés, on lit ça tous les jours, dans nos livres, en tout cas il y a le livre des Jubilés, grosso modo 2e siècle avant Jésus-Christ, donc dans la période qui est entre la fin de l'Ancien Testament et la venue de Jésus-Christ, voici ce qu'il est dit. « Après cela, ils se tourneront vers moi en toute droiture et de tout leur cœur et de toute leur âme. Je circoncirai leur cœur et celui de leur descendance. Je leur créerai un esprit saint. Je les purifierai de sorte qu'ils ne se détourneront plus de moi. » Et la liste peut encore être longue. Et on peut voir ici ceux qui venaient du monde juif, ceux que l'on appelle les judaïsants. Eh bien, on peut voir qu'il devait dire, mais Dieu le demande. On doit obéir. On doit garder cela. Et même s'il y a l'évangile de Jésus-Christ, ça n'empêche qu'on doit garder ceci, parce que c'est absolument fondamental. Mais la question à se poser, ont-ils consulté les sources? Et en consultant les sources, ont-ils compris ce que voulait dire ce signe fort de l'Alliance? S'ils l'avaient compris, ce serait rappelé que c'est un signe qui fait écho à la foi d'Abraham, que Abraham a été circoncis pour sa foi, en signe de sa foi, signe visible d'une réalité invisible, et donc sa circoncision est l'effet de sa foi, mais ce qui lui est demandé, c'est de poser ce signe de la foi sur ses enfants pour que eux se tournent vers la réalité. Et quelle est la réalité? À quoi sert cette pratique de la circoncision? Sinon, comme d'autres pratiques d'ailleurs, pour montrer que l'alliance de notre Dieu passe par du sang qui coule. Chaque petit garçon du peuple d'Israël a sur lui la marque du sang qui coule, pour qu'il se souvienne que la foi repose sur le fait que du sang doit couler, et que ce sang doit couler pour recevoir le pardon de Dieu et pour pouvoir vivre en communion avec Dieu. Ainsi, tout ce sang qui coule dans l'Ancien Testament, et il y en a, est probablement plus qu'on le pense, est probablement pour nous montrer l'importance de l'acte qui va se vivre lorsque Jésus sera cloué sur la croix et dira au Père, « Tout est accompli. » Le signe donné a un sens. Et les sources donnent ce sens. Celle de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament. Les sources du Nouveau Testament remettent les choses. Et l'Évangile montre que ce signe est arrivé à un accomplissement. Il est dépassé maintenant par un autre signe. Le signe jusque-là était un signe montrant que le sang doit couler. Un nouveau signe dépasse celui-là pour dire que le sang a coulé. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Ainsi, le sens de la circoncision prend fin et commence le sens du baptême. Et là est le nouveau signe de l'Évangile, et seules les sources peuvent donner de comprendre ceci. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit, en quittant ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations, allez plutôt en allant dans toutes les nations, faites des disciples en les circoncisant. » Jésus est clair en disant, « En allant dans toutes les nations, faites des disciples en les baptisant. » Ainsi, le signe a évolué. Le signe a pris un nouveau sens. Et donc, appliquer la tradition avec, je peux entendre le message, mais on a toujours fait comme ça. C'est toujours comme ça qu'il a fallu faire, donc on doit continuer de faire comme toujours ça a été fait. Appliquer cette tradition et appliquer la loi sans voir ni écouter ce qu'en disent vraiment les sources, c'est donc comprendre, et sans donc comprendre le sens donné aux choses par Dieu, qui quand même est l'auteur de toutes choses ici, eh bien, appliquer cette tradition expose à cette forme de légalisme qui en réalité s'oppose à l'Évangile. Dans cet exemple, qui comme je disais, est porteur de sens, dans cet exemple qui nous est donné ici, ce n'est pas voir à quel point Jésus est mort sur la croix pour l'expiation de nos fautes. Penser qu'il faut poursuivre la circoncision, c'est penser qu'il faut encore que du sang coule, et c'est penser que le sang qui a coulé sur la croix de Jésus-Christ n'est pas suffisant, qu'il faut encore apporter autre chose, et c'est donc donner de l'insuffisance au message de l'Évangile. Imposer la circoncision ainsi aux nouveaux convertis revient à dire que Jésus n'a pas accompli l'expiation totale de nos fautes. Imposer la circoncision, c'est de dire que l'Évangile n'a pas la puissance de nous réconcilier avec Dieu, n'a pas la puissance de nous sauver et n'a pas la puissance de nous transformer. Vous comprenez maintenant pourquoi le message de Paul est si fort ? Pourquoi le point est si grave ? De vouloir ainsi maintenir ses traditions en ayant perdu le sens originel, en voulant ne pas y mettre le sens nouveau donné en Jésus-Christ. Il y a bien sûr une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais il y a là une nouveauté totale et essentielle. Si elle n'est pas comprise, si elle n'est pas saisie, ça revient à renier l'Évangile, tout simplement. On aurait envie de dire, on entend ce message de Paul, on entend ce message de ceux qui portent une tradition, on peut même entendre une multitude d'autres messages. Qui croire ? Comment savoir vers qui nous tourner ? Comment savoir qui dit vrai ? Je crois que la réponse que Paul donne ici, c'est de dire, regardez les sources. Regardez qui dit les choses. Regardez la crédibilité de ce qui est dit ici. Moi, Paul, je vous démontre que j'ai été exposé à la source. La seule valable, la seule crédible. Cette source saura dire ce qui dans l'Ancien Testament est à retenir et ce qui n'est plus à retenir. Cette source sera nous donnée de comprendre quand Jésus dit qu'il est venu porter la pierre finale. Cette source sera nous donnée de comprendre ce que veut dire « tout est accompli ». Cette source sera là pour nous montrer qu'en effet, le Dieu de l'Alliance est toujours un Dieu qui aime son peuple, qui se fait un peuple et qui poursuit dans cette vision de l'Alliance. Mais cette alliance prend un sens nouveau par la personne même de Jésus-Christ. Alors Paul pourrait dire « Moi, Paul, qui était appelé par le Christ lui-même, reconnu par ses apôtres comme l'envoyé auprès des païens, moi, Paul, apôtre du monde païen, c'est-à-dire apôtre de ceux qui n'ont pas été circoncis jusque-là, je crois que je connais plus le sens que vous de ce que veut dire être chrétien et de ce qui a été nécessaire d'être fait. » Et Paul est en train d'envoyer ce message aux Galates par cet exemple et pour montrer que le message qu'il reçoit est faussé, que le message qu'il reçoit ne repose pas sur les bonnes sources et que le message qu'il reçoit les trompe de l'Évangile. Alors que devons-nous en retenir ? Samuel, ok, tu nous as fait un petit exposé ici sur l'histoire de l'Église, très bien. Enfin, je ne sais pas vous, mais je ne crois pas qu'on soit trop exposé aujourd'hui à des circonstances de circoncision. Enfin, je sais pas, s'il y a ça, dites-moi, ça serait intéressant. Je ne crois pas que vous et moi soyons trop concernés par ce sujet précis. Mais l'enjeu ici, est ce que je vous propose de retenir pour nos vies, où on en a des voix autour de nous. Il en circule des messages, même ne serait-ce que dans l'Église. Il y a des versions de lecture de la Bible ici et là. Et il y a beaucoup de choses qui circulent. N'est-ce pas intéressant à chaque fois, en tout cas moi j'aime faire ça, quand on peut, de dire mais quelle est la source? D'où vient votre théologie? D'où vient votre mouvement? Sur quoi repose ce que vous croyez? Est-il possible, par exemple, qu'il y ait la Bible, mais qu'il y ait un autre livre à côté? Est-il possible qu'il y ait la Bible, mais pas toute la Bible? Est-il possible même qu'il y ait une Bible dont les manuscrits d'origine soient faussés? Je fais allusion à plusieurs mouvements ici. Je pense, par exemple, au mouvement des témoins de Jéhovah, dont la Bible est falsifiée. Le texte d'origine, la source, n'est pas la juste. Et donc, comment avoir une attente d'un message juste si le message au départ est faussé? Je pense au mouvement des Mormons, qui ont la Bible, mais qui ont une autre Bible à côté, un autre texte qui doit filtrer les choses. Je pense aussi à ceux qui ont le message de la Bible, qui vont dire « c'est la Bible », mais dont le poids de la doctrine, de la théologie, de l'histoire, de la tradition, mais un point en plus. C'est pour ça qu'il y a eu un mouvement de la réforme au XVIe siècle. Pour dire qu'on doit retourner aux sources, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent et qui se font qui sont contraires à l'Écriture. Alors s'il faut choisir, nous choisissons la source, l'Écriture sainte. Sans parler de ceux qui aujourd'hui disent « oui, la Bible, d'accord, elle vient de Dieu, oui, mais il y a eu des erreurs, il y a eu des tas de choses qui ont été rajoutées. Et puis, on n'a aucun texte vraiment d'origine. On n'a que des copies. Il y a pu y avoir des erreurs. Mais si on réfléchit bien et si on met toute notre capacité humaine à réfléchir, on va voir que ces textes ne sont pas acceptables. On va voir qu'il y a des choses ici, ça ne peut pas venir de Dieu. Et on va commencer à couper la Bible en petits morceaux. Et parfois, elle est tellement coupée en morceaux qu'il n'en reste plus rien. Et là, je fais allusion aux mouvements libéraux. Quelle est la source qui fait la référence de ce que nous croyons et de la foi à laquelle on adhère? On est loin de tout savoir, mais il est intéressant de connaître les sources. Il est intéressant de voir sur quoi reposent les choses. Et ça peut valoir la peine, si on est confronté à différents messages, de poser la question. D'où ça vient? Quelle est la source? Un autre principe d'application que j'ai peu développé, mais je le dis ainsi, comme ça, qu'on observe dans ce texte, c'est le principe du mentor. C'est intéressant quand même que l'apôtre Paul quand même, brillant théologien de l'époque, qui a quand même rencontré Jésus-Christ en personne, qui a quand même reçu le tampon de trois apôtres dans son ministère, eh bien l'apôtre Paul, 14 ans plus tard, n'hésite pas à revenir voir le conseil des sages. N'hésite pas à venir voir, vous avez noté pourquoi, pour dire, pour être sûr que je n'ai pas déraillé. Mais il ne le dit pas comme ça, mais on se comprend. Sûr que je ne suis pas passé à côté pendant toutes ces années, être sûr que, en parlant avec, allez, je mets le mot, mes mentors, eh bien, ils puissent vérifier et on puisse discuter, échanger pour voir si, en effet, on est sur une bonne piste. Il n'y a rien de plus dangereux que de vivre en solitaire. C'est vrai pour tous les domaines de la vie, mais ô combien vrai spirituellement. C'est très vrai pour les jeunes gens. Ah, je peux parler, je suis vieux maintenant, là, mais on peut parler pour des jeunes gens. Est-ce qu'on a des référents? Est-ce qu'on a des personnes que l'on peut aller voir, avec qui on peut poser des questions, et dire voilà ce que je pense, est-ce que tu penses que c'est juste? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ça peut être vrai pour nos enfants, ça peut être vrai pour des choix professionnels, ça peut être vrai pour des questionnements spirituels. On a un bel exemple ici de personnes aussi grands qu'ils soient qui prend soin et qui fait référence à cela pour dire « Je suis allé voir mes mentors et je leur appuie. » Je pense que c'est une marque à laquelle, c'est une marque que Paul donne ici et il est intéressant pour nous de l'évoquer. Mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut juste aller voir des sages. Il s'agit d'aller voir pour nous. Des gens qui ont acquis leur sagesse fondée sur les sources. Pas oublier la source, il ne s'agit pas de prendre n'importe quelle sagesse qui vient autour de nous pour dire voilà quelqu'un. Bon, ça peut être utile, mais pour les raisons spirituelles, l'enjeu aussi c'est de se dire est-ce que la personne que je vais aller voir, qui peut être mon parent spirituel, repose sur ses sources? Et est-ce que sa vie le montre ainsi? Donc, projet d'application, questionner nos sources, voir si on ne peut pas trouver des mentors ici. Et puis, troisième point que je développerai beaucoup plus la prochaine fois, mais quand même un avertissement. Il est question dans ce texte de ce que Paul nomme des faux frères. Qu'est-ce qu'un faux frère ici? Juste pensons-y un instant. C'est quelqu'un qui est dans l'Église. C'est quelqu'un qui joue l'Église. C'est quelqu'un qui a le langage de l'Église. C'est quelqu'un qui peut être à nos côtés. Et c'est quelqu'un, en réalité, qui n'a pas connu l'Évangile. Qui vit l'Évangile, mais qui ne connaît pas l'Évangile. On y reviendra plus la semaine prochaine, simplement pour dire, les choses qui se passent ici dans l'Église de Jésus-Christ ne sont pas forcément des choses qui viennent d'un mouvement ailleurs, qui arrive par Internet. Ça peut être quelque chose qui est juste ici en nous. Et auquel on est appelé à prêter attention, appelé à être vigilant, et appelé, encore une fois, dans ce qui peut se faire et se discuter, de dire, mais est-ce fidèle à l'Écriture? Est-ce fidèle aux sources? Et là, on peut aller de l'avant. Alors voilà, que le Seigneur nous conduise dans notre vie, dans notre existence. Cette lettre veut nous centrer sur l'Évangile, sur la beauté de l'Évangile, sur la grandeur de l'Évangile. Mais ô combien cet Évangile peut être détourné, peut être trompé. Si on entend un autre message, quelles sont les sources? Et n'est-ce pas bon d'aller voir des parents spirituels, des pères qui peuvent, pères dans le sens père-mère, mais qui peuvent nous conseiller, nous aider. Et soyons vigilants. Mais surtout, ne regardons pas à côté. Surtout, regardons-nous, est-ce que l'Évangile est ce qui fait la réalité de mon existence? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est la source. Merci d'avoir pris soin de nous donner une source si riche, une source qui brille par son unité dans sa diversité, qui brille par le nombre de personnes qui parlent en ton nom, mais qui pointent toutes vers le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à grandir, comprendre cette parole. Aide-nous surtout à avoir le discernement nécessaire pour ne pas nous laisser écarter par un autre Évangile. Protège-nous, Seigneur, de toute forme de légalisme. Protège-nous aussi de toute forme de laxisme. Donne-nous de prendre dans ta parole ce que tu nous donnes comme révélation de nous de saisir ces propos de l'apôtre Paul et de nous questionner. Donne-nous de voir cet évangile qui nous donne tout ce qui est nécessaire à la vie pour être sauvé, à la vie pour vivre. Et que Seigneur, tu nous donnes de grandir dans notre regard, notre compréhension de cette parole que tu nous donnes. Et nous en remettons entre tes mains. Nous te prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ.